impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Le bourreau et victime en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Ralentir, paroles à venir. Forme brève du XXe siècle et du XXIe. Lecture proposée par Les Plumes Vertes.
Chers auditeurs, voici la deuxième partie de la correspondance de Franz Kafka à Milena Jesenska. Nous les retrouvons en juillet 1920. 15 jours à peine après ces 4 jours passés ensemble, de Prague d'où il écrit à sa traductrice qui est devenue son amante, Franz dissèque leur relation, essaye de mesurer la part du désir et décrit l'inutilité de la conquête amoureuse. À l'instar du cloporte des métamorphoses, il s'imagine en une souris à laquelle on permet tout au plus une fois par an de traverser les tapis. Il analyse finement, pour lui comme pour Milena, la difficulté de rompre d'avec toutes les conventions et il anticipe sur leur avenir commun, rongé par son sentiment de culpabilité. De même, il prévoit leur première dispute et il lui confie ses aventures érotiques entre fantasmes et réalité. Ainsi, Kafka montre-t-il toute la complexité de sa psyché, injonctions contradictoires, images dévalorisantes de son être par des anecdotes de son présent et de son passé.
Prague, 17 juillet 1920, samedi. Je savais bien ce qu'il y aurait dans ta lettre. C'était déjà presque toujours entre les lignes dans les autres. C'était également dans tes yeux. Que ne lirait-on sur leur front transparent? C'était dans les rides de ton front. Je le savais comme quelqu'un qui a passé la journée dans un abîme de peur, de rêve et de sommeil. Derrière des volets fermés, et qui ouvre sa fenêtre le soir n'est pas étonné de voir, il le savait, que maintenant la nuit est là, une nuit profonde et merveilleuse. Je vois combien tu te tourmentes et te tournes et te retournes sans parvenir à te libérer. Je vois, mettons le feu aux poudres, que tu n'y parviendras jamais. Je le vois et je n'ai pas le droit de te dire « reste où tu es ». Mais je ne te dis pas non plus le contraire. Je reste en face de toi, je regarde dans tes yeux, tes pauvres chers yeux. La photo que tu m'as envoyée est navrante. Et c'est un supplice de la regarder. C'est un martyr auquel je me soumets 100 fois par jour. C'est, hélas, aussi une richesse que je défendrai contre 10 géants. Et je reste fort, comme tu dis. Je possède une certaine force. Disons en gros, obscurément, pour être bref, mon absence de sens musical. Elle ne va cependant pas jusqu'à me permettre d'écrire encore. Dis-moi maintenant. Je ne sais quel flot de souffrance et d'amour me prend, m'emporte et m'en empêche. F.
Prague, 26 juillet 1920, lundi plus tard. Que de papiers viennent d'arriver à l'instant même, hélas, et je travaille pour qui ? Le cerveau rongé d'insomnie. Pour qui ? Pour le fourneau de cuisine. Et maintenant, pour comble, le poète, le premier. Il est aussi graveur sur bois et aquafortiste, et il ne s'en va pas, et il éclate de vie, et cette vie, il la déballe sur moi. Il voit que je frémis d'impatience, que ma main tremble sur cette lettre, que ma main tombe sur ma poitrine, et il ne s'en va pas, ce brave garçon, ce jeune homme plein de vie, ce mélange de détresse et de félicité, cet être prodigieux, mais qui me pèse si affreusement en ce moment. Et tu craches du sang. Et au fond, nous ne faisons tous deux que répéter la même chose dans nos lettres. Une fois, je demande si tu es malade, et tu me parles maladie. Une autre fois, je veux mourir, ensuite c'est toi. Une fois, je veux pleurer devant toi, comme un petit garçon. Tu veux pleurer devant moi, comme une petite fille. Et une fois, et 10, et 1000, et tout le temps, je veux être près de toi, et tu dis de même. Assez, assez. Et je n'ai toujours pas de lettre m'expliquant ce que t'a dit le médecin, lambine que tu es, méchante épistolière, mauvaise chérie. Non, rien. Me taire entre tes bras.
Prague, du 8 au 9 août 1920, dimanche soir. Il y a une chose qui me gêne depuis toujours dans ton argumentation. Elle éclate particulièrement dans ta dernière lettre. C'est une faute indubitable et sur laquelle tu peux t'examiner. Quand tu dis, ce qui est vrai, que tu aimes ton mari à tel point que tu ne peux pas le laisser, quand ce ne serait que pour moi, ne le fais pas. J'entends que si tu le laissais quand même, ce serait une chose affreuse pour moi. Je te crois et te donne raison. Quand tu dis que toi, tu pourrais le laisser, mais qu'il a besoin de toi moralement et ne saurait vivre sans toi, que c'est pour cette raison que tu ne peux l'abandonner, je le crois aussi et je te donne encore raison. Mais quand tu dis que matériellement, il ne se débrouillerait pas sans toi et que tu en fais une raison principale, ou bien c'est pour masquer les motifs précédents, non pour les renforcer, ce sont des motifs. Ou bien ce n'est qu'une de ces plaisanteries du cerveau dont parle ta dernière lettre, sous lesquelles le corps se débat, et pas seulement lui. F.
L'absence, la maladie, l'appréhension de la mort font leur œuvre. Déjà fin août, Franz pensait que les lettres quotidiennes, au lieu de fortifier, dépriment. Une étrange vacuité se substitue aux interrogations passionnées. Le sentiment du néant se développe, alternative à l'amour. Ou bien tu es à moi et c'est bien, ou bien je te perds et alors ce n'est pas, mettons, mauvais, mais exactement rien. Il ne me reste plus ni jalousie, ni souffrance, ni crainte, ni rien.
Prague, du 26 au 27 août 1920, jeudi soir. Je n'ai guère fait aujourd'hui que rester assis, lire ça et là en picorant, et surtout, principalement, rien, ou écouter une légère souffrance qui me travaillait dans les tempes. Tout le jour, j'ai été occupé de tes lettres, tourmenté, amoureux, soucieux, en proie à la crainte imprécise de quelque chose d'imprécis, dont l'imprécision consiste surtout en ceci qu'elle dépasse démesurément mes forces. Je n'ai d'ailleurs pas osé relire tes lettres. Il y en a même une demi-page que je n'ai pas osé lire du tout. Pourquoi ne puis-je prendre mon parti du fait qu'il n'y a pas mieux à faire que de vivre dans cette singulière tension qui ressemble à un suicide constamment différé? Tu m'as dit plusieurs fois quelque chose du même genre et j'essayais de me moquer de toi quand tu le faisais. Pourquoi est-ce que je relâche cette tension afin de m'échapper comme un animal fou et qui pisait comme l'animal? Pourquoi est-ce que j'aime cette folie, dérangeant l'électricité, l'affolant, attirant ainsi toute la décharge sur mon corps au risque d'être foudroyé? Je ne sais pas exactement ce que je veux dire par là. Je ne cherche qu'à capter les plaintes qui s'échappent de tes lettres, les plaintes tues, non les plaintes proférées, et je le peux car ce sont au fond les miennes. Que nous ayons dû connaître aussi un tel accord dans le domaine des ténèbres, c'est le plus étrange de tout, et je ne puis vraiment y croire qu'une fois sur deux.
Vendredi. Au lieu de dormir, j'ai passé la nuit avec tes lettres. Pas tout à fait volontairement, je dois l'avouer. Cependant, je ne suis pas encore dans le dernier dessous. À vrai dire, je n'ai pas reçu de lettres, mais cela ne fait rien non plus. Il vaut beaucoup mieux maintenant ne pas s'écrire chaque jour. Tu t'en es rendu compte en secret avant moi. Les lettres quotidiennes, au lieu de fortifier, dépriment. Autrefois, je buvais ta lettre d'un trait, et je devenais aussitôt, je parle de Prague, non de Merano, 10 fois plus fort et 10 fois plus altéré. Mais maintenant, c'est tellement triste. Je me mords les lèvres en te lisant. Rien n'est plus sûr, sauf la petite douleur dans les tempes. Mais peu importe. Excepté une chose, une seule chose, Milena. D'abord, ne pas tomber malade. Ne pas écrire est bon. Combien de jours me faut-il pour venir à bout de 2 lettres comme celle d'hier? Sotte question, peut-on en venir à bout en jours? Mais il ne faut pas que la maladie en soit la cause. Je ne pense qu'à moi en parlant ainsi. Que ferais-je si tu étais malade? Très probablement ce que je fais maintenant, mais comment? Non, je ne veux pas y songer. Et pourtant, quand je pense à toi, toujours étendu dans ton lit, comme tu étais à Gmund le soir dans le pré, où je te parlais de mon ami et où tu écoutais si peu. Et ce n'est pas une image douloureuse, c'est proprement le meilleur au contraire de ce que je suis capable de penser en ce moment. Tu es au lit, je te soigne un peu, je vais, je viens, je te pose la main sur le front, je m'abîme dans tes yeux quand je me penche sur toi, je sens ton regard qui me suit quand je vais et viens dans la chambre. Et je sens toujours, avec un orgueil que je ne peux plus maîtriser, que je vis pour toi, que j'en ai la permission, et je remercie le destin parce que tu t'es un jour arrêté près de moi et que tu m'as tendu la main. Et ne serait-ce qu'une maladie qui passera bientôt et te laissera mieux portante que tu n'étais auparavant et dont tu te relèveras plus grande, tandis qu'un jour, bientôt, et espérons-le, sans douleur et sans bruit, je m'enfoncerai dans la terre. Ce n'est pas cela qui me tourmente, mais l'idée que tu tombes malade si loin de moi.
Prague, 5 septembre 1920, dimanche. Est-ce que l'essentiel est ici, Milena, dans ce que tu prétends avoir écrit? Et n'est-ce pas plutôt la confiance? Tu avais de même abordé le sujet dans une lettre. C'était dans l'une des dernières de mon séjour à Merano. Je ne pouvais plus te répondre. Regarde, il a fallu que Robinson trouve de l'embauche, qu'il effectue un dangereux voyage, qu'il fasse naufrage et 1000 autres choses. Moi, il suffirait que je te perde pour être immédiatement Robinson. Mais je serais plus Robinson que lui. Il avait encore son île. Et vendredi, et toutes sortes de choses, sans compter le bateau qui est venu le chercher et qui a tout ramené à un rêve. Moi, je n'aurai rien, pas même mon nom. Je te l'ai donné, lui aussi. Et c'est pourquoi, dans une certaine mesure, je suis indépendant de toi. précisément parce que ma dépendance a dépassé toute limite. Le « ou bien » est trop grand. Ou bien tu es à moi, et c'est bien. Ou bien je te perds, et alors ce n'est pas, mettons, mauvais, mais exactement rien. Il ne me reste plus ni jalousie, ni souffrance, ni crainte, ni rien. Évidemment, il est blasphématoire de bâtir ainsi sur un être. C'est pourquoi la peur rampe autour des fondations. Mais ce n'est pas une peur qui te concerne, c'est la peur de l'audace d'avoir ainsi bâti. Et c'est pourquoi tant de choses divines viennent se refléter pour la combattre. Mais il a dû en être toujours ainsi, sur ton cher visage terrestre. Voilà. Maintenant, Samson a dit son secret à Dalila. Et elle peut lui couper ses cheveux par lesquels elle le secoue d'ailleurs, toujours si bien à titre de préparation. À sa guise. Si elle n'a pas de son côté un secret semblable, tout n'est-il pas indifférent ? Depuis 3 nuits, je dors très mal, sans motif appréciable. Tu vas passablement, n'est-ce pas ? Prompte réponse, si réponse il y a. Ton télégramme arrive à l'instant, d'une façon si surprenante, ouvert en outre que je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Réellement, aujourd'hui, je crois que j'en avais besoin. Comment l'avais-tu deviné ? Toujours ce parfait naturel avec lequel tu fais toujours ce qui est nécessaire.
L'expérience d'être si douloureuse est actualisée par la présence possible de Milena. Cela donne de nouveau à cette correspondance la profondeur d'une introspection lucide et désenchantée.
Prague, novembre 1920. Aujourd'hui, c'est jeudi. Jusqu'à mardi, j'étais fermement décidée d'aller à Grumenstein. Je sentais bien parfois une menace intérieure quand j'y songeais. Je me rendais compte aussi que c'était pour une part cette menace qui provoquait mes temporisations, mais je pensais pouvoir surmonter tout cela facilement. Mardi à midi, quelqu'un m'a dit qu'il n'était pas nécessaire d'attendre à Prague le permis de séjour, qu'on pouvait très probablement l'avoir à Vienne. Par conséquent, la voie était libre. J'ai passé un après-midi à me tourmenter sur mon canapé. Le soir, je t'ai écrit une lettre, mais je ne l'ai pas expédiée. Je croyais encore pouvoir surmonter mes obstacles, mais j'ai passé une nuit d'insomnie à me tordre littéralement de tourments. Les deux morceaux de moi, celui qui voulait partir et celui qui avait peur de le faire, fragments de moi seulement tous deux, mais tous deux également fripouilles, probablement, se prenaient aux cheveux. Je me suis levée de grand matin comme à la pire époque. Je n'ai plus la force de partir. Je ne puis supporter à l'avance l'idée de me trouver devant toi. C'est une tension du cerveau que je ne peux pas endurer. Ta lettre déjà exprime l'immense, l'irrésistible déception que je te fais éprouver, et maintenant ceci encore. Tu m'écris que tu n'as plus d'espoir, mais que tu as l'espoir de pouvoir t'éloigner de moi tout à fait. Je ne puis faire comprendre à toi ni à personne ce qui se passe en moi. Comment pourrais-je faire comprendre pourquoi c'est ainsi ? Je ne peux même pas me le rendre intelligible à moi-même. L'essentiel n'est d'ailleurs pas là. L'essentiel est bien clair. Il est impossible de vivre humainement dans mon entourage. Tu le vois et ne veux pas le croire encore.
Prague, début avril 1922. Voilà déjà bien longtemps, Madame Milena, que je ne vous ai plus écrit. Et aujourd'hui encore, je ne le fais que par suite d'un hasard. Je n'aurai pas au fond à excuser mon silence, vous savez comme je hais les lettres. tout le malheur de ma vie. Je ne le dis pas pour me plaindre, mais pour en tirer une leçon d'intérêt général, vient, si l'on veut, des lettres ou de la possibilité d'en écrire. Je n'ai pour ainsi dire jamais été trompée par les gens, par des lettres toujours. Et cette fois, ce n'est pas par celles des autres, mais par les miennes. Il y a là, en ce qui me concerne, un désagrément personnel sur lequel je ne veux pas m'étendre, mais c'est aussi un malheur général. La grande facilité d'écrire des lettres doit avoir introduit dans le monde, du point de vue purement théorique, un terrible désordre des âmes. C'est un commerce avec des fantômes, non seulement avec celui du destinataire, mais encore avec le sien propre. Le fantôme grandit sous la main qui écrit, dans la lettre qu'elle rédige, à plus forte raison dans une suite de lettres où l'une corrobore l'autre et peut l'appeler à témoin. Comment a pu naître l'idée que des lettres donneraient aux hommes le moyen de communiquer ? On peut penser à un être lointain, on peut saisir un être proche, le reste passe la force humaine. Écrire des lettres, c'est se mettre nu devant les fantômes. Ils attendent ce moment avidement. Les baisers écrits ne parviennent pas à destination, les fantômes les boivent en route. C'est grâce à cette copieuse nourriture qu'ils se multiplient si fabuleusement. L'humanité le sent et lutte contre le péril. Elle a cherché à éliminer le plus qu'elle pouvait le fantomatique entre les hommes. Elle a cherché à obtenir entre eux des relations naturelles, à restaurer la paix des âmes en inventant le chemin de fer, l'auto, l'aéroplane. Mais cela ne sert plus de rien. Ces inventions ont été faites une fois la chute déclenchée. L'adversaire est tellement plus calme, tellement plus fort. Après la poste, il a inventé le télégraphe, le téléphone, la télégraphie sans fil. Les esprits ne mourront pas de faim, mais nous, nous périrons. Cette histoire de lettres m'a incité à en écrire une. Et maintenant que c'est chose faite, comment ne pas vous écrire à vous aussi, Madame Milena, qui êtes peut-être la personne du monde à qui j'aime le mieux écrire, pour autant qu'on puisse aimer cette occupation. Mais je n'entends parler ici que pour les fantômes qui assiègent ma table avec concupiscence.
Le 9 mai 1923. Merci beaucoup de vos amitiés. En ce qui me concerne, je suis venue ici pour quelques jours. À Prague, ça n'allait plus bien. Mais ce n'est pas un vrai voyage, seulement un petit frétillement d'ailes. Des ailes qui ne sont pas du tout celles qu'il faudrait.
Carte postale de Berlin, Steglitz, 23 décembre 1923. Chère Milena, voilà longtemps qu'il y a ici un morceau de lettre prêt pour vous, mais qui attend toujours sa suite, car mes vieux maux sont venus me retrouver ici encore, m'attaquer et m'abattre un peu. Tout me coûte une peine affreuse. Le moindre mot, tout ce que j'écris me paraît démesuré quand je considère ma faiblesse. Et lorsque j'écris « amitié », ces amitiés auront-elles vraiment la force d'arriver jusqu'à votre Lerchenfelderstrasse, si bruyante, si tumultueuse et si grise et si citadine, où je ne pourrai respirer non plus que ce qui est à moi ? C'est pourquoi je n'écris pas du tout, attendant de meilleurs temps ou de pires, au reste, bien et tendrement gardé jusqu'aux limites du possible d'ici-bas. Du monde, je n'apprends rien, sinon, mais de la façon la plus éloquente, par le renchérissement de la vie. Je ne reçois pas les journaux de Prague, ceux de Berlin sont trop chers pour moi. Que diriez-vous de m'envoyer de temps en temps une coupure des Narodni Listi, du genre de celles qui m'avaient tant fait plaisir autrefois ? Depuis quelques semaines, mon adresse est Steglitz, Grünewaldstrasse 13, chez M. Seifert. Là-dessus, malgré ce qui précède, mes meilleures amitiés. Qu'importe si elles sont destinées à tomber dès la porte de votre jardin, peut-être n'en sont-elles que plus fortes. Votre cas. Thank you.
En avril 1924, Kafka travaille aux premières épreuves de son dernier livre, Un artiste de la faim. L'infirmière qui soigne Kafka, mourant au sanatorium de Klosterneuburg à Kissinger, observe. Dans la nouvelle Un artiste de la faim, Franz Kafka écrit le dégoût devant la nourriture, 7 ans avant sa mort, et comme il l'éprouvera lui-même lorsque son larynx sera de plus en plus atteint. Son esprit était avant tout absorbé par ce qu'il écrivait. Il meurt dans de grandes souffrances début juin à Kirling. Sa dernière compagne, Dora Diamant, commentera la mort solitaire de l'homme qu'elle a aimé passionnément. « Toi qui es seul, si absolument seul, et nous qui n'avons rien à faire, et qui restons ici, et te laissons là-bas dans les ténèbres nues, ô mon Franz aimé. »
Pour conclure, nous donnons la parole à Milena. C'est elle qui saluera la mémoire de Franz Kafka dans cet article publié dans le Narodni Listi. Ce panégyrique sensible met en évidence l'importance du talent de Franz Kafka. C'est la dernière lettre d'amour de Milena Jesenska adressée à Kafka. La musique de Janáček qui a accompagné notre lecture était extraite des lettres intimes et du quatuor pour cordes numéro 1 interprété par le quatuor Prajak.
Avant-hier, est mort au sanatorium de Kirling près de Klosterneuburg, à côté de Vienne, le docteur Franz Kafka, un écrivain allemand qui vivait à Prague. Peu de gens le connaissaient ici, car il allait seul son chemin, plein de vérité, effrayé par le monde. Depuis bien des années, il souffrait d'une maladie des poumons, et s'il la soignait, il la nourrissait aussi consciemment et l'entretenait dans sa pensée. Lorsque l'âme et le cœur ne peuvent plus supporter leur fardeau, le poumon prend sur lui la moitié de la charge. Ainsi, la charge est au moins également répartie, a-t-il écrit une fois dans une lettre. Et sa maladie était de cette espèce. Elle lui conférait une fragilité presque incroyable et un raffinement intellectuel sans compromis presque terrifiant. Mais lui, en tant qu'homme, avait déposé toute son angoisse intellectuelle sur les épaules de sa maladie. Il était timide, inquiet, doux et bon. Mais les livres qu'il a écrits sont cruels et douloureux. Il voyait le monde plein de démons invisibles qui déchirent et anéantissent l'homme sans défense. Il était trop lucide, trop sage pour pouvoir vivre, trop faible pour combattre. Faible comme le sont des êtres beaux et nobles qui sont incapables d'engager le combat avec la peur qu'ils ont de l'incompréhension, de l'absence de bonté, du mensonge intellectuel, parce qu'ils savent d'avance que ce combat est vain et que l'ennemi vaincu couvre encore de honte son vainqueur. Il connaissait les hommes comme seul peut les connaître quelqu'un de grande sensibilité nerveuse, quelqu'un qui est solitaire et qui reconnaît autrui à un simple éclair dans son regard. Il connaissait le monde d'une manière insolite et profonde. Lui-même était un monde insolite et profond. Il a écrit les livres les plus importants de toute la jeune littérature allemande. Toutes les luttes de la génération d'aujourd'hui dans le monde entier y sont incluses, encore que sans esprit de doctrine. Ils sont vrais, nus et douloureux, si bien que, même lorsqu'ils s'expriment de manière symbolique, ils sont presque naturalistes. Ils sont pleins de l'ironie sèche et de la vision sensible d'un homme qui voyait le monde si clairement qu'il ne pouvait pas le supporter et qu'il lui fallait mourir s'il ne voulait pas faire de concessions comme les autres et chercher recours dans les diverses erreurs de la raison et de l'inconscient, même les plus nobles. Franz Kafka a écrit le fragment « Le soutier » paru en tchèque dans Cerven chez Neumann. Le premier chapitre d'un merveilleux roman encore inédit, « Le verdict », conflit de deux générations. La métamorphose, le livre le plus fort de la littérature allemande moderne. La colonie pénitentiaire et les esquisses, regards et médecins de campagne. Le dernier roman, « Devant la loi », attend depuis des années en manuscrit. C'est un de ces livres qui, quand on les a lus jusqu'au bout, laisse l'impression d'un monde si parfaitement compris qu'il rend inutile le moindre commentaire. Tous ces livres décrivent l'horreur de l'incompréhension, de la faute innocente parmi les hommes. C'était un artiste et un homme d'une conscience si sensible qu'il entendait encore là où les sourds se croyaient faussement en sûreté. Narodni Listy, 7 juin 1924.
Marie Bérail,
Anne Pronot.
Sting.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez